Bonjour et bon jeudi. Merci d'écouter les voix de service quotidien qui prend son envol. C'est Hélène Denis avec vous. Et avec moi et avec vous, Mathieu Tessier qui est à la régie et puis au choix musical. Comment allez-vous, Mathieu?
Je vais très bien, comme très souvent.
Comme très souvent. Hier, non?
Oui.
Oui?
Oh oui.
Demain?
Non, on verra. Vous me redemanderez la question demain.
Ben, je serai pas là demain, imaginez donc.
C'est vrai, c'est François demain.
C'est François, oui, qui sera là pendant quelques jours, vendredi, puis lundi, c'est congé.
Tout à fait.
Il sera de retour mardi, puis moi, mercredi.
Non, mais d'ici mercredi, jeudi prochain, je devrais aller bien.
D'accord. Alors, je vous reposerai la question. Mathieu, on vous écoute dans les éphémérides.
5 octobre, nous sommes la journée mondiale des enseignants et des enseignantes aujourd'hui.
On les salue.
Ben oui, tout à fait. Donc, dans l'histoire, en 1502, Christophe Colomb aborde la côte du Costa Rica. En 1582, début du calendrier grégorien, une initiative du pape Grégoire XIII, le lendemain du 4 octobre, est déclarée 15 octobre pour corriger le calendrier julien qui était décalé par rapport au temps réel. En 1793, le catholicisme prend son statut de religion d'État en France. Nous avons en 1931, parti du Japon, Clyde Pangborn et Hugh Endorn, j'aurais dû pratiquer mes noms avant, complètent la première traversée sans escale du Pacifique, se posant dans l'État de Washington au bout de 41 heures. 1962, publication en Grande-Bretagne de Love Me Do, le premier single des Beatles. Mm. En 1969, première diffusion en Grande-Bretagne de Monty Python and Flying Circus. 1970, toujours un 5 octobre, le diplomate anglais James Richard Cross est enlevé à Montréal par une cellule du Front de libération du Québec. C'est le début de la crise d'octobre. L'alpiniste Laurie Skrillet, excusez-moi, de Calgary, est le premier Canadien à vaincre l'Everest en 1982. Et en 1984, Marc Garneau devient le premier Canadien à voyager en orbite autour de la Terre.
C'est vrai, on l'oublie maintenant qu'il fait de la politique.
Il ne faut pas oublier ça quand même.
C'est un exploit.
Tout à fait. 1989, cette fois, le Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains, opprimé par le régime de Pékin, remporte le prix Nobel de la paix. En 2005, à Toronto, les sénateurs d'Ottawa, pour ceux qui aiment le sport, je pense que c'est du hockey, battent les Maple Leafs 3-2 au terme de la première fusillade de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. En 2012, le premier parrain de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto, arrive à Toronto après avoir purgé 6 ans de prison pour un dossier de triple meurtre commis en 1981 à New York. Et un enquêteur à la retraite du SPVM, Benoît Roberge, est arrêté pour avoir présumément vendu des informations aux Hells Angels en échange d'argent. Ça, c'était un 5 octobre 2013. Pour ce qui est des naissances d'aujourd'hui, Louis Lumière, inventeur du cinématographe, entre autres, en 1864. Et pour ce qui est des décès, Steve Jobs nous a quittés en 2011, un 5 octobre. Il est donc, on le rappelle, le cofondateur de Apple. L'aviateur français Roland Garros, qui était né, lui, en 1888 et décédé en 1918, et le compositeur français Jacques Offenbach, qui était né en 1819 et décédé un 5 octobre 1880.
Avec l'accent, Jacques Offenbach.
Oui,
c'est vrai, vous avez des notions, vous, en allemand.
Oui, je butine l'allemand.
Et non l'allemande.
Non.
Merci, Mathieu. À la une de la presse d'aujourd'hui, une boisson complètement débile, très populaire auprès des jeunes, la boisson sucrée à forte teneur en alcool, Four Loko, peut faire des ravages. Urgentologues et experts en santé publique sonnent l'alarme. Conférence Chrétien Clinton à Montréal, l'ombre de Trump. Dévastation à Porto Rico, pénurie de médicaments à l'horizon au Québec. Vers un remaniement à Québec, le Conseil des ministres s'élargira. Et la presse à Las Vegas, 30 secondes pour sauver des vies, le témoignage d'un médecin de garde le soir de la tuerie. Une catastrophe de santé publique. Le chef des urgences du CHU Sainte-Justine, le docteur Antonio D'Angelo, a récemment traité un adolescent de 14 ans qui avait perdu connaissance après avoir bu le contenu de deux canettes de Four Loko, soit l'équivalent de 8 verres de vin, en moins de 30 minutes. L'ado a été conduit aux urgences pédiatriques montréalaises par un ami chez qui il devait passer la nuit. Cet ami ne voulait surtout pas alerter ses parents. Le patient était plongé dans un coma éthylique, décrit le pédiatre qui a reçu les deux garçons aux urgences le mois dernier. Son ami nous l'a amené parce qu'il n'arrivait pas à le réveiller. Cette boisson au malt, offerte en différents parfums sucrés, dont limonade, cerise et punch aux fruits, a une teneur élevée en alcool, soit 11,9 %, en plus de contenir l'équivalent de 13 cuillerées à thé de sucre. En boire une équivaut à consommer 4 verres d'alcool standard. L'ado a été envoyé directement en salle de réanimation où il a fait l'objet d'une surveillance constante toute la nuit. Le jeune patient s'est réveillé en douleur durant la nuit. Il était complètement déshydraté. Il en a été quitte pour une bonne frousse. En matinée, considéré comme hors de danger, il a pu rentrer à la maison. Ce cas n'est pas unique. Les urgences du CHU Sainte-Justine ont reçu leur premier cas d'adolescent intoxiqué au Four Loko au début de l'été. Une collègue du docteur D'Angelo a même traité un jeune patient qui a développé une dépendance au Four Loko. Le danger de la boisson, c'est que le goût sucré masque celui de l'alcool. Les enfants vont en boire une trop grande quantité trop vite pour se rendre compte trop tard qu'ils ont dépassé leurs limites. L'entreprise qui fabrique le Four Loko ne veut pas juste faire de vous des alcooliques, elle veut faire de vous des alcooliques diabétiques et obèses, dit Catherine Paradis, spécialiste des dépendances. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter sa consommation de sucre libre à 10 % de l'apport calorique quotidien. Pour une femme ayant besoin de 2000 calories et un homme ayant besoin de 2500 calories, cela correspond respectivement à 50 g et 63 g de sucre, soit environ 12 et 15 cuillerées à thé par jour. Or, une seule canette en contient 13 cuillerées à thé. Après avoir bu une seule canette de Four Loko, le consommateur atteint son seuil d'intoxication fixé à 4 verres pour un homme. Une consommatrice, elle, le dépasse, 3 verres pour une femme, explique pour sa part la porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec, Émilie Dansereau-Trahan. L'ouragan Maria qui a frappé Porto Rico pourrait avoir des contre-coups jusque sur les malades québécois en dévastant un territoire qui compte pas moins de 80 usines et installations pharmaceutiques. La catastrophe fait maintenant craindre une vague de pénurie de médicaments au Québec. C'est préoccupant. On est actuellement à la recherche d'informations pour bien gérer les risques dans nos établissements, a expliqué à la presse Mélanie Caron, présidente de la table des pharmaciens pour le groupe d'approvisionnement de l'Ouest du Québec. Porto Rico occupe le 5e rang parmi les régions productrices de médicaments au monde, avec des exportations annuelles totalisant 3 milliards US. La moitié des grandes sociétés pharmaceutiques y ont des usines et on y retrouve pas moins de 80 installations, approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis. Or, depuis deux semaines, la presque totalité de l'île se retrouve sans électricité. Les infrastructures de communication et les routes sont aussi largement paralysées. Santé Canada affirme n'avoir aucune indication que la situation à Porto Rico entraînera de graves pénuries de médicaments nécessaires pour les Canadiens et les Canadiennes. Santé Canada est conscient de la gravité des pénuries de médicaments et se penche actuellement sur les effets possibles de la situation à Porto Rico, a expliqué l'organisation dans une déclaration écrite envoyée à la presse. Santé Canada affirme être en contact avec la FDA américaine et les entreprises pharmaceutiques pour recueillir toutes les informations nécessaires. 30 secondes pour sauver des vies. Lorsque les tirs se sont tus, les patients ont commencé à affluer à l'hôpital Sunrise de Las Vegas, environ 200 en un peu plus d'une heure, comme un tsunami qui menaçait d'engloutir les urgences, pataugeant littéralement dans le sang. Le personnel a affronté la vague avec les ressources du bord et sauvé des dizaines de vies. L'urgentologue Kevin Menez était au travail à côté d'un policier dimanche lorsque la radio de l'agent a commencé à transmettre des cris d'alerte paniqués peu après 22 heures. J'ai entendu tirs d'armes automatiques et spectacles de musique country. J'ai compris qu'il y avait des milliers de victimes potentielles, dit le docteur Kevin Menez en entrevue avec la presse. L'hôpital Sunrise, un vaste complexe en béton de couleur rose, directement en face du Las Vegas Country Club, n'est pas le centre de traumatologie primaire désigné pour les cas lourds dans la capitale mondiale du divertissement, mais avec les centaines et les centaines de blessés à traiter qui s'accumulaient, il a tout de même été mis à contribution immédiatement. Une centaine de membres de son personnel médical ont été mobilisés, médecins, assistants, infirmières, y compris des gens qui venaient de terminer une pleine journée de travail. Le triage des blessés est déterminant dans une telle situation. Je suis allée dehors dans l'entrée des ambulances, je sortais des patients et je regardais. Pour chacun, j'avais moins de 30 secondes pour trouver ses blessures et le classer dans la bonne section, dit le médecin. Tout le monde mettait la main à la pâte, y compris le personnel d'entretien ménager qui nettoyait en quatrième vitesse les planchers inondés du sang des blessés, afin d'éviter qu'un médecin ne glisse et tombe en courant dans l'urgence. Le nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, accueillera ses premiers patients dimanche. Voici tout ce que vous devez savoir sur son ouverture ainsi que sur la fermeture de l'hôpital Saint-Luc qui aura lieu le même jour. D'ici là, pour faciliter le déménagement, évitez dès maintenant les urgences de Saint-Luc, demandent les dirigeants du CHUM. Le déménagement des patients vers le nouveau CHUM comporte un risque, mais il s'agit d'un risque contrôlé, assure la PDG adjointe du CHUM, Danielle Fleury. Dimanche matin, toutes les équipes de soins seront quasiment doublées. Chaque patient sera accompagné durant le transfert d'au moins un membre du personnel soignant. Dès 5 heures du matin, des médecins et des infirmières vont faire la tournée des patients. Si un patient doit être opéré d'urgence, il pourra être opéré à Saint-Luc et quand il sera prêt, on le transférera dans le nouvel hôpital, quitte à ce que ça soit plus tard dans la journée, précise Mme Fleury, qui prévoit que le transfert des patients sera terminé vers midi. Pour diminuer les risques, le taux d'occupation de l'hôpital Saint-Luc sera de moins de 50 % dimanche, alors que le taux habituel est de 90 %. Dimanche, à 5 heures, les urgences de l'hôpital Saint-Luc fermeront. Les familles des patients ne pourront pas assister au transfert de leurs proches. Deux centres de commandement, l'un à Saint-Luc et l'autre dans le nouvel hôpital, sont déjà établis. Le nouveau CHUM est terminé et fonctionnel, assure sa PDG adjointe Danielle Fleury. Il reste des ajustements à faire, mais l'hôpital est terminé. Le nouveau CHUM, qui compte 772 chambres individuelles, n'est pas prêt à 100 %, affirme pour sa part le président du syndicat des employés du CHUM, Claude Talbot. Un service d'accès à Internet sera offert pour la clientèle du CHUM. Les prochains déplacements de patients vers le nouvel hôpital auront lieu le 5 novembre, Hôtel-Dieu, et le 26 novembre, Notre-Dame. Le dernier tour de piste de l'administration du maire Marc Demers au conseil municipal de Laval avant les élections du 5 novembre a été tumultueux. L'Assemblée a été marquée par une manifestation pacifique mais très bruyante des cols bleus deux fois plutôt qu'une. La séance a été suspendue mardi soir puis reprise hier après-midi. À titre préventif, les cols bleus avaient été mis en demeure de ne pas perturber le conseil municipal et la sécurité avait été renforcée. « On veut être respecté », s'est indigné le président syndical, Martin Gagnon. « Le maire veut nous empêcher de manifester. Il y a une seule raison, c'est pour ces élections. La convention des cols bleus est échue depuis janvier 2016. » « Triste nouvelle, un cycliste de 18 ans a succombé à ses blessures après être entré en collision avec un véhicule au pied du Mont-Royal hier avant midi. Le service de police de la ville de Montréal a confirmé la mort du jeune homme tard en soirée. L'accident s'est produit sur la voie Camillien-Houde aux alentours de 11 heures. En descendant la côte, un automobiliste de 59 ans a effectué un virage en U illégal, bloquant le passage au cycliste qui n'a pu éviter la portière côté conducteur.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Mon cœur de silex vit de bon feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi, une ex voudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? À l'index, nos nuits blanches, nos matins gris bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Ah, Françoise Hardy, la chanson « Comment te dire adieu ?»
À la une du Devoir d'aujourd'hui, jeudi 5 octobre, Chrétien et Clinton alertent Trump, une photo de M. Chrétien et de M. Clinton, une vision du monde, l'ancien premier ministre canadien Jean Chrétien et l'ex-président des États-Unis Bill Clinton étaient réunis sur une même scène mercredi soir à Montréal, où ils ont échangé sur leur vision du monde à l'opposé de celle de l'actuel occupant de la Maison-Blanche qu'ils n'ont jamais nommé. Prostitution, le pasteur qui voulait sauver les brebis égarées. Ottawa subventionne un projet sur la prostitution lancé par le chef d'une église évangéliste. Racisme systémique, des calculs politiques déplorables. Philippe Couillard ne peut pas remettre en cause la consultation sous prétexte qu'il a perdu Louis Hébert, disent des organismes. Livre « Nourrir la panse et la pensée » à la table des philosophes propose une réflexion sur nos repas quotidiens. Normand Baillargeon, en photo sur la une du Devoir, se définit comme un flexitarien en matière d'alimentation. La Catalogne est-elle à quelques jours d'une déclaration d'indépendance? Et la chronique d'Odile Tremblay intitulée « Mirage et carnage de Las Vegas ». « Les membres de la table de concertation contre le racisme systémique ont dénoncé la politisation et l'ingérence du premier ministre dans la consultation sur le sujet, indiquant que c'est précisément cela qui est en train de faire dérailler le processus. Dans un point de presse mercredi, ils ont jugé déplacées les déclarations faites par Philippe Couillard au sujet de sa déconfiture à l'élection partielle qui ouvrait la porte à l'annulation de la consultation sur la discrimination et le racisme systémique. Si le premier ministre aujourd'hui déclare qu'à cause de ses résultats électoraux dans Louis-Hébert, il faut repenser la consultation, c'est qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire, l'indépendance de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ce n'est plus Philippe Couillard le boss, c'est la Commission des droits de la personne, a insisté Émilie Nicolas, l'une des porte-parole de la table de concertation contre le racisme systémique. Les calculs électoraux des libéraux et la saison électorale, ça n'a strictement aucun rapport avec le mandat qui s'est fait donner la Commission. L'exercice consultatif est trop important pour qu'il soit soumis au jeu politique et récupéré par des intérêts partisans, a indiqué pour sa part Haroun Bouazi, président de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. C'est un problème de société profond qui demande du tact. Un nouvel organisme de bienfaisance lié à un groupe religieux et sans expérience dans le domaine de la prostitution vient de recevoir une subvention de 180 000 $ pour développer un modèle d'hébergement pour jeunes femmes qui souhaitent quitter la prostitution, modèle qui sera applicable sur l'ensemble du territoire québécois. Ce choix laisse perplexe les organismes regroupés au sein de la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, CLÉ, qui s'inquiète de l'approche choisie et d'un possible prosélytisme, ce dont se défend l'organisme. La sortie est un organisme de bienfaisance fondé en 2013 sous l'impulsion de Jerry Plunkett, pasteur de l'église évangéliste Catch the Fire dans l'ouest de l'île de Montréal. On a vu un reportage sur la prostitution, raconte l'homme d'église. Mon épouse et moi, on a eu le cœur brisé. On a eu envie de faire quelque chose. La sortie, ce n'est pas une mission religieuse, c'est un projet séculier, répète son directeur général, Ronald Lepage, un ancien dirigeant de centre de toxicomanie qui s'est converti à l'église Catch the Fire après son embauche. Le plan d'aide aux victimes développé par la sortie est basé sur une approche motivationnelle, une approche qui vise à susciter un discours de changement chez la victime et qui a beaucoup de similitudes avec l'approche utilisée en toxicomanie ou pour les problèmes de jeu. C'est la relation avec un comportement destructeur, explique le directeur général. La CLÉ, qui utilise une approche féministe et de défense des droits, précise la nature de ses doutes envers cette autre approche. Transposer une approche qui part de l'idée que les personnes ont des comportements à risque pour elles-mêmes et appliquer ça à la prostitution, ça nous pose un grand problème, s'insurge Diane Matt, l'une des fondatrices de la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Quand on parle d'alcool ou de drogue, on parle d'une personne qui consomme une substance. En prostitution, c'est la personne qui est consommée. On n'est pas dans le contrôle des pulsions. Après la bataille, la réconciliation. Le nouveau chef du NPD, Jagmeet Singh, a tendu la main à Guy Caron, son adversaire d'hier, en le nommant chef parlementaire. Le député de Rimouski mènera ainsi les troupes néo-démocrates à la Chambre des commerces en l'absence du nouveau chef. L'ex-président des États-Unis Bill Clinton et l'ancien premier ministre canadien Jean Chrétien se sont retrouvés mercredi soir à Montréal comme deux vieux amis pour parler des bienfaits du commerce, célébrer l'ouverture et la diversité culturelle et en appeler à plus de confiance entre personnes de bonne volonté, sans jamais mentionner une seule fois le nom de celui auquel tout le monde pensait. Les deux hommes avaient visiblement beaucoup de plaisir ensemble sur scène devant la salle bondée du Palais des congrès de Montréal où le Conseil canado-américain des affaires avait organisé leur retrouvaille. Toujours volubile à 83 ans, Jean Chrétien a multiplié les anecdotes que les deux hommes ont en commun Souvent amusé, parfois ému, Bill Clinton, 71 ans, a plusieurs fois tendu la main pour la poser sur le bras de son compère. Interrogé par l'ambassadeur américain au Canada du temps où ils étaient tous les deux à la tête de leur pays, Gordon Giffin, ils ont abordé pendant plus d'une heure diverses questions d'actualité en s'en tenant autant que possible à des généralités, au point même de ne jamais nommer l'actuel occupant de la Maison-Blanche. Selon Jean Chrétien, le Canada et les États-Unis sont un exemple pour le reste du monde de l'enrichissement économique et culturel que constitue l'accueil d'immigrants. Plus d'un an après avoir lancé la campagne pour le salaire minimum à 15 $, le mouvement syndical et des groupes sociaux la relancent avec comme point culminant une grande marche de 15 km pour le 15 $ le 15 octobre. C'est l'automne, on est à la reprise des activités parlementaires, les élections s'en viennent dans moins d'un an, donc on a jugé bon de redonner un grand coup avec une marche le 15 octobre prochain pour 15 $, a expliqué le président de la FTQ, Daniel Boyer. Alors, la Grande Marche se tiendra à compter de 10 heures au métro Lionel-Groulx jusqu'à 14 heures au Parc Jarret à Montréal le 15 octobre. Et pour ceux qui n'ont pas la forme, il sera possible de s'y joindre en marchant 5 ou 10 kilomètres. Des contingents se joindront à la Grande Marche à la place Émilie-Gamelin à 11h30 pour les 10 kilomètres et au Parc Laurier à 13 heures pour les 5 kilomètres. La campagne a jusqu'ici porté certains de ses fruits. À la FTQ, par exemple, la section locale 298 du Syndicat québécois des employés de services a réussi à obtenir ce salaire minimum à 15 $. Et 36 mois de prison pour l'ex-directeur général du Cosmodôme de Laval, Sylvain Bélair, aurait fait perdre plus de 1,45 million à au moins 46 personnes entre 2006 et 2009.
Chez eux pour se faire une partie de quille. Grand Bill avait son bowling dans le bas de la ville, dans son building. Et Grand Bill, la petite fille qui l'aidait, he would treat her like a lady. Ariane était belle, belle comme la mer. Sa seule présence nous aidait à passer l'hiver. Ses yeux étaient clairs, sa voix était douce. À nous servir de la bière sans faire de mousse. Le rêve de ben des gars, conquérir son cœur. Ou pour se consoler, obtenir un peu de ses faveurs. Grand Bill, lui aussi, y aurait fait la cour. On entendait même dire qu'ils avaient peut-être fait l'amour. Grand Bill avait son bowling dans le bas de la ville, dans son building. Grand Bill, la petite fille qui l'aidait, we would treat her like a lady. Puis un beau soir de tournoi, Grand Bill est en pleine victoire. Quand il y a un petit nouveau qui est entré, l'air un peu mêlé. Quand Ariane lui a demandé s'il voulait quelque chose à boire,
quelque chose à boire,
leurs regards se sont croisés et c'est là que tout a changé. La petite sacrée, deux semaines plus tard, était mariée. on n'a plus jamais, jamais, jamais rien entendu parler. La place est vidée, Granville s'est pendu. La business a fermé, et le building a été vendu. Ce mot d'une belle histoire que j'ai tendance à oublier, c'est ce qu'on se disait encore hier soir, Ariane pis moi.
De son album Kiki Barbecue, c'était Martin Léon qui nous chantait Granville.
En une du Journal de Montréal, Bravo Denis. De qui s'agit-il? De quel Denis s'agit-il? Denis Villeneuve. Le cinéaste québécois était en Californie mardi, mais tenait à lancer Blade Runner 2049 à Montréal hier soir. De plus en plus de députés n'habitent pas leur comté, dont la moitié des ministres du Québec. Chronique de Joseph Facal, pourquoi la crise va s'aggraver en Catalogne? Taxation d'Internet, Netflix pourrait rapporter 100 millions. Et Omer de Serre songe à s'installer à Plattsburgh. Un Québécois offre son rein pour 100 000 $ sur eBay. Le site de petites annonces et Facebook ont rapidement retiré sa proposition. Un travailleur de la Côte-Nord a mis son rein à vendre pour 100 000 $ sur eBay parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin de deux. Alors pourquoi ne pas sauver une vie? Francis Moreau, 24 ans, est adjoint administratif pour une firme comptable. Il étudie également à temps partiel en communication à l'université. Il dit d'abord être motivé par le fait de sauver une vie, mais ne cache pas non plus avoir un intérêt financier. C'est sûr que je veux faire de l'argent, je n'irai pas sur une table d'opération et passer le reste de ma vie avec un seul rein sans rien demander en retour, a-t-il dit. Il ne sait cependant pas ce qu'il ferait du 100 000 $ pour l'instant. La vente d'organes est illégale au Canada, comme dans de nombreux pays, mais s'il voulait donner son rein, il n'y aurait aucun problème. La Fondation canadienne du rein se positionne d'ailleurs contre la vente d'organes, puisqu'elle expose les donneurs et les receveurs à des risques inutiles. Le gouverneur général coûte plus cher. Plus de 53 millions en argent public ont été consacrés au gouverneur général et son bureau lors de la dernière année financière. Il s'agit d'une hausse fulgurante de 21% par rapport à l'année précédente. La hausse est due en partie à ses voyages. Aux millions alloués au déplacement du représentant de la reine s'ajoutent des dépenses faites par d'autres ministères comme la Défense nationale, l'Affaires mondiales et la GRC. Ceux-ci ont offert pour 15,72 millions en services, comme le transport, la logistique et la sécurité. L'autre augmentation importante enregistrée l'an dernier est la fulgurante hausse du prix des locaux qu'utilise le gouverneur général, mais payée notamment par la Commission de la capitale nationale, CCN. Le prix de ces locaux a subitement bondi de 27 % l'an dernier à 15,3 millions. Cette hausse est encore plus grande si l'on compare à l'année précédente, alors que les locaux prêtés ne valaient que 7,5 millions. La CCN évoque des dépenses de rénovation de la résidence officielle de la gouverneure générale, Rideau Hall, pour justifier cette hausse. Notamment, l'entrée de la cour a été réaménagée. Des oppositions se sont indignées de ce financement alloué à la fonction de gouverneur général qui représente la reine du Canada. C'est ridicule de dépenser autant d'argent pour un poste qui n'est qu'honorifique et protocolaire, s'insurge Louis Plamondon, député du Bloc québécois. L'indépendantiste critique régulièrement le montant du salaire, 290 000, que recevra Julie Payette, ainsi que le nombre d'employés à son service, environ 160. « Je crois que c'est du gaspillage, que c'est exagéré », ajoute le néo-démocrate Alexandre Boulris, qui invite la nouvelle gouverneure générale à surveiller ses dépenses. La Ligue monarchiste du Canada défend la fonction du gouverneur général qui devrait, selon elle, avoir tous les moyens nécessaires pour représenter les Canadiens hors de la partisanerie des politiciens. Alors, nous voyons une photo de David Johnston, qui a été gouverneur général du Canada de 2018 jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à la nomination et l'installation dans le poste de gouverneur général de Julie Payette. Ils refusent d'habiter leur comté. Près de 40 % des députés provinciaux, dont plus de la moitié de ceux du PLQ, sont dans cette situation. De plus en plus de députés du Parti libéral du Québec, dont la moitié des ministres, choisissent de ne pas habiter le comté qu'ils représentent selon un recensement effectué par notre bureau d'enquête. Aujourd'hui, 51 % des représentants du Parti libéral du Québec se trouvent dans cette situation parfaitement légale, mais qui ne fait pas l'unanimité chez les députés. En 2011, ils étaient 45 %. Parmi les députés actuels qui n'habitent pas dans leur circonscription, on retrouve deux chefs de parti, Jean-François Lisée, Rosemont, du Parti québécois, PQ, et François Legault, l'Assomption, de la Coalition Avenir Québec, CAQ. 14 des 28 ministres, dont Gaétan Barrette, Lapinière, Sébastien Proux, Jean Talon, Pierre Moreau, Châteauguay, Jean-Marc Fournier, Saint-Laurent, et même le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, Westmount-Saint-Louis, n'habitent également pas dans leur comté. Ces données ont été obtenues par notre bureau d'enquête en croisant des renseignements rendus publics sur le site du directeur général des élections du Québec. Plusieurs invoquent des raisons familiales pour justifier leur situation. À notre demande, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale a procédé à une vérification des lois ou règles applicables en matière de lieu de résidence des députés dans les autres provinces ou pays. Aucune juridiction au Canada n'oblige un député à avoir sa résidence principale dans la circonscription qu'il représente. Une sexagénaire qui venait de réaménager avec le père de ses enfants après plus de 20 ans de séparation en a payé de sa vie mardi soir. Un drame conjugal qui a aussi envoyé un policier à l'hôpital. Cet été, Joanne Chaillé a partagé avec ses amis son bonheur. Elle donnait une deuxième chance à sa relation avec son ancien conjoint après une longue période de séparation en s'installant avec lui dans une nouvelle résidence. Madame Chaillé y a été retrouvée inconsciente. Sa mort a été constatée plus tard à l'hôpital. Elle aurait été abattue par arme à feu, a-t-on appris. Le conjoint de la victime, âgé de 72 ans, a été arrêté sur place puis amené à l'hôpital pour traiter des blessures mineures. Netflix nous fait perdre près de 100 millions. Ottawa et les provinces se privent d'un manque à gagner de 100 millions de dollars en ne taxant pas Netflix, soutient la fiscaliste Marva Rizki. Au Québec, cette perte s'élève à 27 millions de dollars, selon la professeure de l'Université de Sherbrooke. C'est 100 millions perdus, c'est seulement pour Netflix. Imaginez si on ajoute les Google et Facebook. Ce chiffre risque d'exploser, regrette Madame Rizki, professeur de fiscalité. Le gouvernement du Québec promet maintenant d'imposer la TVQ à Netflix après la sortie du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin. Le ministre des Finances, Carlos Letao, a juré mardi agir bientôt au nom de l'équité fiscale. Netflix a plus de 100 millions d'abonnés dans le monde. Au Canada, Solution Research Group estime ce chiffre à 5,9 millions de personnes. Selon Marwa Rizki, environ 6 millions de Canadiens sont abonnés aujourd'hui à ce service et 1,37 million le sont au Québec. Un foyer québécois sur trois est abonné à Netflix, 33 %. Vient ensuite le Club Illico, 19 % et Extra Tout TV, 4 % selon une étude du CIFRIO, un organisme de recherche et d'innovation paru cette semaine. Selon Mme Rizki, Québec devrait aller plus loin et taxer les Netflix de ce monde à plus de 15 %. Il faut juste avoir un peu de courage politique. Si Ottawa ne demande pas de TPS, pourquoi la province n'exigerait pas le 9,975 % de TVQ plus le 5 % de TPS pour un total de 15 % s'interroge-t-elle.
J'ai un trou dans mon soulier, par où je peux voir un coin du ciel passer, de bord en bord de la semelle. Un grand trou bleu, un grand trou sans fond, qui me rend heureux quand ça tourne pas rond dans ma tête. Un goulot de bouteille, une vieille paire de bas, par où me sort la grosse orteille, faudrait bien que je m'assoie. Me raccommode avec un bout de laine, une aiguille à pick-up, puis pour apiécer ma peine, un blues, une complainte qui sort par le trou de ma guitare. On a tout un trou quelque part dans nos poches pour y perdre un bout de nos petites vies croches. Un trou qui nous ramasse quand le reste nous dépasse. Un trou du cul ou bien un trou d'amour sur le coin d'une rue. Un trou badaud, une complainte qui sort par le trou de sa guitare.
Stéphane Faulkner, de bord en bord de la semelle.
La chronique d'Odile Tremblay intitulée « Mirage » au pluriel et « Carnage » au pluriel de Las Vegas. Dans son lancinant « Leaving Las Vegas » où Nicolas Cage tenait en 1996 son meilleur rôle, oscarisé entre parenthèses, Mike Figgis faisait de Sin City un théâtre où l'alcool, le jeu, l'argent, les néons, l'érotisme et l'illusion se mariaient avec la mort. Cette fleur de kitsch du désert de Mojave s'y voyait consacrée dans son mythe. Avec ses casinos où le jour et la nuit se confondent, sa prostitution omniprésente, ses spectacles plus grands que nature, ses dérisoires facsimilés à échelle réduite des merveilles architecturales du monde, nulle part ailleurs qu'à Las Vegas n'éprouve-t-on pareil vertige d'irréalité érigée en modèle. Longtemps sous la loi de la pègre, cette ville improbable aura attiré en son strip les artistes aimés des foules venus au nom du Québec. Car Las Vegas a de nous en elle. C'est Céline Dion. C'est le Cirque du Soleil. Puis sans aimant de divertissement pour touristes en goguette. On croit déceler là-bas l'empreinte de la ruée vers l'or quand les aventuriers jouaient sur ces sables leur dernière pépite au retour de la Californie. Immense saloon à ciel ouvert, avec cow-boy à chapeau et à colt mieux accueillis qu'ailleurs. Bienvenue dans les casinos du Nevada, même avec des armes sans permis. Symbole du rêve américain, Las Vegas. Désormais celui de son échec en rage meurtrière dans un pays armé jusqu'aux dents. Du haut du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, un homme seul avec une montagne d'armes d'assaut montée sans obstacle est parvenu à tuer dimanche soir une soixantaine de personnes, en plus d'en blesser 500 avant de se suicider. Sous les images en boucle de nos écrans, les monstres de l'Amérique, gueules ouvertes, semblaient hurler en bande-son. L'attentat récent le plus meurtrier des États-Unis frappe d'autant plus les esprits qu'il s'est produit durant un spectacle de chansons western. Or, l'Amérique profonde, conservatrice et blanche, constitue la première clientèle de ce répertoire musical. Le tireur avait ce même profil de supporter de Trump, retraité millionnaire, accro au jeu. Sans histoire, si ce n'est un père ancien braqueur de banque, on nage en plein Far West à l'arsenal monté en secret. Pif paf sur la nuée des 22 000 spectateurs de rue. L'épicentre des ivresses américaines dégrise, sans que le président du pays veuille envisager des restrictions dans la législation du port d'armes en irritant ses supporters. L'America First s'est mordu la queue sur un air de banjo, à l'heure où la planète fout le camp et où les États-Unis portent des visières. Blade Runner en écho à la vraie vie. Les stars ne sont pas dupes, cibles de choix qui se barricadent, n'osent s'exposer, se serrant les coudes aussi en réflexe post-traumatique. Ainsi, dans l'État voisin de la Californie à Los Angeles, la grande première mondiale du Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve mardi soir dernier a annulé son tapis rouge après le massacre de Vegas. Remarquez, ces replis durent un temps, puis tout le monde ressort paillettes et beau profil. The show must go on. On s'en tire mieux à Montréal, où la production la plus attendue de l'année se posait mercredi soir à l'ouverture du Festival du Nouveau Cinéma en présence du cinéaste deux jours avant sa sortie en salle. Vrai gentleman, Denis Villeneuve, qui passa au-dessus de la Mostra de Venise et du TIFF de Toronto, fait une fleur au FNC. Chérie d'Hollywood, tant qu'on voudra, son Blade Runner 2049, suite du chef-d'œuvre de Ridley Scott en 1982, le cinéaste québécois l'offre à sa ville, ayant déjà livré la semaine dernière des entrevues à la chaîne Chez nous. On lui tirera encore plus notre chapeau quand sa production de science-fiction si stylisée récoltera des Oscars le 4 mars prochain. Attendu à la réalisation, au décor, à la direction photo et autres lauriers techniques, au meilleur film peut-être. On parle d'une œuvre de haute virtuosité visuelle et sonore davantage que d'un film d'acteur et d'unité poétique comme le fut celui de Scott. Éblouissant, sur des images sublimes appelées à faire date, mais avec des langueurs dans le maelstrom du scénario. Des parentés avec le court-métrage « Next Floor » de Villeneuve, un clin d'œil au « Rosebud » du « Citizen Kane » de Wells à travers certains objets fétiches, une décharge et une ville digne de l'animation post-apocalyptique « Wall-E », un héros en crise existentielle comme l'humanité d'aujourd'hui. Dans une scène de casino désert avec un hologramme d'Elvis chantant sur « Retrouvailles du Blade Runner original », la tuerie de Las Vegas semble trouver un écho. Plus d'utopie possible à nos horizons. Seule la dystopie fait sens ici, dans ce Los Angeles sans arbres, au soleil voilé dans l'atmosphère empoisonnée de 2049, où cohabitent humains et robots dans un paysage cinématographique magnifié. À n'en point douter, si la science-fiction retrouve ses lettres de noblesse à l'écran, c'est qu'elle s'écrit avec nos gaspillages, nos angoisses, nos dérives, nos mythes absurdes et nos massacres aveugles, comme la vraie vie. C'était la chronique de Odile Tremblay dans Le Devoir d'aujourd'hui intitulée « Mirages et carnages de Las Vegas ». Et de retour, cette fois dans la presse, section pause, « Fini le fouillis », c'est un texte de Stéphanie Dupuis. Le garde-manger, cet endroit souvent exigu où l'on déballe l'épicerie, empile les conserves et pousse tout au fond les produits qu'on utilise occasionnellement et qu'on finit par oublier. Plusieurs ont tendance à négliger l'organisation de leurs aliments. Quelle est la meilleure façon de tenir un garde-manger bien rangé? Un garde-manger bien rangé, c'est cela? La presse s'est penchée sur la question. On n'a pas appris à le classer et il devient un genre de fourre-tout, se désole Florence Léa Siri, auteure, chroniqueuse et conférencière zéro gaspillage de chic frigo sans fric. Et pourtant, c'est le fun d'être rangé, insiste quant à lui le chef d'Annie Saint-Pierre. Quand on ouvre la porte du garde-manger de la fervente du zéro gaspillage, tout semble bien coordonné et à portée de main. Florence Léa Siri a opté pour un mode d'organisation peu commun. Je mets mes petits outils, fouet et batteur par exemple, à côté des aliments pour lesquels ils vont servir, analyse-t-elle. Elle optimise tout afin de réduire au maximum le gaspillage, et ce, autant en ce qui a trait au temps et à l'énergie qu'à l'espace que prennent les objets qu'elle utilise quotidiennement. On perd tellement de temps à chercher les choses dans notre garde-manger. C'est important que tout soit disponible en un coup d'œil, suggère-t-elle. Hélène Laurendeau, nutritionniste, mère de deux jeunes adultes et collaboratrice à Radio-Canada, a un mode d'organisation bien strict, regroupé par catégories. Pour les petits espaces comme les grands, il faut, selon elle, donner une vocation différente à chaque armoire et à chaque étagère. Il faut une étagère salée pour y mettre les légumineuses, le thon et les autres conserves, et une étagère pour le sucré, comme les ananas, les fruits séchés et le miel, précise-t-elle. Elle suggère d'avoir un tiroir à collation qui peut accueillir les barres tendres, les craquelins et les biscuits. Si l'espace le permet, l'armoire à déjeuner peut être la bienvenue. Ce mode de rangement par famille d'utilisation est aussi celui priorisé par le chef propriétaire du restaurant Petite Maison d'Annie Saint-Pierre, collaborateur à Canal Vie, et nouvellement chef partenaire du casse-croûte chic Aéropole. Pour lui, chaque étage doit avoir son rôle. Il te faut un étage sucré, un étage à huile et condiments, un étage à pâtes et légumineuses et un étage à céréales, énumère-t-il. Marie-Lou, de 3 fois par jour, conseille d'organiser le rangement par thématique, mais surtout de ranger selon la manière dont on cuisine. Par exemple, mon beurre de peanut, je le mets dans la même armoire que mes graines de chia, parce que je sais que je fonctionne comme ça quand je veux me faire à déjeuner, explique-t-elle. Organiser l'espace, mais avec quoi? Organiser son garde-manger par thématique permet de mieux se structurer, mais bien choisir les contenants dans lesquels mettre ses aliments reste primordial. C'est important d'opter pour des contenants transparents pour pouvoir bien voir leur contenu, précise Florence Léa, qui réutilise une vieille bouteille de rhum vide pour garder son riz. En plus d'offrir une deuxième vie à un contenant, les pots maçons restent une bonne option pour nos spécialistes puisqu'ils se réutilisent en plus d'être transparents et parfaits pour les conserves. L'instigatrice de chic frigo sans fric choisit aussi des boîtes de métal qu'elle apprécie pour leur durabilité. Il faut toutefois s'assurer d'indiquer leur contenu par souci d'efficacité. Le chef de petite maison mise plutôt sur l'importance de l'uniformité des contenants utilisés. Pour lui, ce sont les sacs qui ont la cote. Il en faut de toutes les grandeurs, petits, moyens et grands, et on met tout ça, et on met tout dedans, s'enthousiasme-t-il. Le garde-manger regorge de pièges à éviter, à commencer par sa forme. Hélène Laurendeau met en garde contre leur profondeur. On tend à oublier les aliments qui se trouvent trop loin et ils finissent par se périmer. Les tiroirs coulissants sont une très bonne alternative, suggère la nutritionniste. Les fonds de sac semblent aussi donner du fil à retordre à nos spécialistes. On a tendance à acheter un nouveau sac lorsqu'on n'a pas encore fini l'autre. On accumule, ça fait des surplus et finalement, on a un gros fouillis, explique Florence Léa. Mais le plus grand piège reste de ne pas tenir à jour un inventaire de ce que contient notre garde-manger. Comment y remédier? Florence Léa suggère d'adopter ce qu'elle appelle la boîte « tout ce qu'il reste ». Pour moi, c'est un vieux Tupperware dans lequel je mets tous les fonds de sac que je veux consommer expressément. Cette stratégie lui permet encore une fois de réduire le gaspillage en offrant une place de choix au contenant. J'utilise les mêmes stratégies marketing qu'à l'épicerie. Je mets mon panier à Touski à la hauteur de mes yeux. Hélène Laurendeau est encore plus draconienne. Si je sais qu'une de mes boîtes de thon va bientôt expirer, je la sors sur mon comptoir pour me forcer à la consommer rapidement. En plus d'étiqueter ses pots pour bien identifier leur contenu, Marie-Lou suggère de faire régulièrement l'inventaire de son garde-manger. À cette idée, Dany Saint-Pierre propose de coller avec de la gommette sur la porte une liste des aliments contenus dans le placard. Il va de soi de la mettre à jour à chaque changement. Nos spécialistes sont unanimes, le secret d'un garde-manger bien rangé commence par la tenue d'un inventaire à faire avant de se rendre à l'épicerie.
Patrick Watson et sa chanson Big Bird in a Small Cage.
Actualité internationale, maintenant, océan Pacifique, le regain d'activité d'un volcan a forcé l'évacuation complète au cours des derniers jours d'une île de l'archipel du Vanuatu dans le Pacifique. Les 11 000 résidents d'Ambe ont été transportés par bateau et par avion dans le cadre d'une opération qui rappelle, au dire d'un journaliste local, la mobilisation civile observée durant la Seconde Guerre mondiale pour évacuer les troupes anglaises prises à Dunkerque. Le directeur de l'information du Vanuatu Daily Post, Dan McGarry, a indiqué par courriel que l'opération s'était terminée hier, deux jours avant la date butoir fixée par le gouvernement local. Les gens acceptent qu'il est nécessaire d'évacuer. Le volcan lui-même est la seule preuve dont ils ont besoin, dit Dan McGarry, directeur de l'information du journal. Une dizaine d'embarcations d'envergure ainsi qu'un nombre important de petits bateaux ont contribué à l'évacuation. Une douzaine d'avions de brousse ont aussi été mobilisés. Presque tous ces appareils ont été nolisés par la population locale. Chaque vol coûte près de 3 000 $. En une seule journée, il y en a eu une quarantaine, tous payés par des particuliers, relève le journaliste. Le Venezuela est en train de se couper du monde. Peter Cerda, vice-président pour le continent américain de l'Association internationale du transport aérien, IATA. La plupart des compagnies aériennes internationales ont quitté le pays en raison du contrôle des changes exercé par l'État vénézuélien. Le contrôle des changes rend impossible pour les compagnies aériennes la conversion en dollars de leurs gains dans la monnaie locale ainsi que le transfert de ces sommes vers leur siège social. Le montant total que ces entreprises n'ont pas pu rapatrier dans leur pays d'origine s'élève à 3,8 milliards de dollars américains, selon les derniers chiffres de l'IATA, donc l'Association internationale du transport aérien. Royaume-Uni, un discours de Theresa May tourne au cauchemar, quinte de tout, éruption d'un comédien, l'être qui s'effondre, le discours de reconquête de Theresa May a tourné au cauchemar hier à Manchester, fragilisant un peu plus la première ministre britannique, dont le gouvernement est miné par les divisions sur le Brexit. Cela devait être le congrès du renouveau pour Theresa May, l'occasion de tourner la page des législatives du 8 juin, et du revers essuyé par les Tories qui ont perdu leur majorité absolue, et elle est une bonne partie de son autorité. Et elle, une bonne partie de son autorité. Hélas, tout ou presque est parti de travers lors de son allocution devant ses ministres et des centaines de militants du Parti conservateur réunis en congrès depuis dimanche à Manchester, grande ville du nord-ouest de l'Angleterre. Comme poursuivie par un chat noir, Theresa May a vu son discours brièvement interrompu par un manifestant, un acteur qui lui a tendu un formulaire de licenciement, prétendument à la demande de son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Madame May a également été stoppée par de fréquentes quintes de toux jusqu'à ce que son ministre des Finances, Philip Hammond, lui fasse parvenir un bonbon pour calmer sa gorge. Enfin, deux lettres du slogan « Building a country for everyone »,« Bâtir un pays pour tous », inscrits derrière elle, se sont détachées pendant qu'elle s'exprimait. Pour le quotidien The Guardian, difficile de ne pas y voir la métaphore d'une première ministre à la peine et à court d'idées. Quel désastre a lancé Sima Malhotra, député de l'opposition travailliste sur Twitter. C'est un vrai foutoir, pas un gouvernement. Dans un éditorial cinglant, le quotidien conservateur Daily Telegraph a même jugé la première ministre finie. Tant bien que mal, entre deux quintes de toux, Theresa May a tenté de présenter sa vision des mois et des années à venir, appelant son parti à faire bloc derrière elle et à dépasser ses divergences sur le Brexit. Le corps de la dernière victime du séisme du 19 septembre à Mexico a été sorti des décombres d'un immeuble de la capitale, ont annoncé hier les autorités. En nous appuyant sur la liste fournie par les familles et les témoins qui travaillaient, nous ne pensons pas localiser d'autres victimes, a indiqué le maire de Mexico, Miguel Angel Mancera, sur une chaîne de télévision nationale. Le dernier corps a été dégagé d'un immeuble de bureau de 6 étages où 49 corps ont été récupérés dans le quartier de Roma Condesa, l'une des zones les plus touchées par le séisme. Durant les premiers jours qui ont suivi le tremblement de terre, 29 personnes avaient pu être sorties vivantes de cet édifice. Le séisme a fait au total 366 morts, la plupart dans la capitale. Une petite dernière, un peu plus légère. Pour les 83 ans de Brigitte Bardot, Saint-Tropez a dévoilé une statue de l'actrice française dans son plus simple appareil. Ce week-end, de nombreux touristes sont venus admirer l'œuvre basée sur un dessin du maître italien de la bande dessinée érotique Milo Manara. La statue de bronze pèse plus de 1500 livres et fait 2,5 mètres de hauteur. Brigitte Bardot possède depuis 1958 la Madrague, une maison située sur la route des Canebiers, à Saint-Tropez. Actualité internationale, plutôt culturelle, les 70 finalistes des prix littéraires du gouverneur général sont connus. Les auteurs québécois Virginie Blanchette-Doucet, Mylène Bouchard, Michael ou Michael Delisle, Christian Gay-Poliquin et Stéphane Larue sont les 5 finalistes de langue française des prix littéraires du gouverneur général de 2017 dans la catégorie « Romans et nouvelles ». Le Conseil des arts du Canada a annoncé mercredi la liste des 70 finalistes répartis en 7 catégories et selon la langue de l'œuvre. La candidature de Virginie Blanchette-Doucet a été retenue pour son roman 117 Nord, celle de Mylène Bouchard pour avoir écrit L'imparfaite amitié et Michael Delisle pour Le palais de la fatigue. Christian Gay-Poliquin et Stéphane Larue sont également de la course, respectivement pour Le poids de la neige et Le plongeur. Dans la catégorie poésie, Bec de lièvre, d'Annie Lafleur, La main hantée de Louise Dupré, L'île haute en marge de Grand Pré de Serge-Patrice Thibodeau, Pas de tombeau pour les lieux de Judy Quinn et Strange Fruits de Jean-Marc Desjans sont en lice. Antigone au printemps de Nathalie Boisvert, Dimanche Napalm de Sébastien David, Exercice de l'oubli d'Emma Haché, Norge de Kevin McCoy ainsi que Trois petites sœurs de Suzanne Lebeau constituent les finalistes pour le prix du gouverneur général dans la catégorie théâtre. En ce qui concerne les essais, Nicolas Lévesque est finaliste pour « Je sais trop bien ne pas exister », Daniel Grenier pour « La solitude de l'écrivain de fond » et Serge Bouchard pour « Les yeux tristes de mon camion ». Les essais propositions de clarté de Benoît Côté et Soigner aimé d'Ouenessa Younzi complète ce groupe. Deux catégories sont consacrées à la littérature jeunesse, soit les textes et les livres illustrés. Dans la première, les écrits retenus sont « Chroniques post-apocalyptiques d'une enfance sage » d'Annie Bacon, « L'élixir du baron von Rosin » de K. Lambert, « Les moustiques » de Jocelyn Boisvert, « L'importance de Mathilde Poisson » de Véronique Drouin et « Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire » écrit par Roxane Desjardins. Pour les livres illustrés dédiés aux jeunes, les œuvres Azada de Jacques Goldstein, En voiture, l'Amérique en chemin de fer de Pascal Blanchet, Fred, Petit chat minou de Christiane Duchesne et Marion Arbonnat, La légende de Carcajou de René Robitaille et Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault ont été retenus. 35 finalistes ont aussi été retenus pour leur ouvrage de langue anglaise. De ce nombre, on retrouve les Montréalais Jocelyn Par et Kathleen Winter pour leurs romans respectifs Uncertain Weights and Measures et Lost in September. Marie-Louise Gay est finaliste dans la catégorie Littérature jeunesse, livre illustré pour Short Stories for Little Monsters. Chaque finaliste recevra 1 000 tandis que les lauréats qui seront connus le 1er novembre profiteront de 25 000 $. La nouvelle gouverneure générale du Canada, Julie Payette, remettra les prix littéraires aux gagnants à Ottawa le 29 novembre. De retour à Las Vegas mardi soir, Céline Dion a annoncé en levée de rideau qu'elle allait verser tous les profits du concert qu'elle s'apprêtait à donner aux familles des victimes du massacre du week-end dernier, une fusillade durant laquelle un homme a abattu 59 personnes en plus d'en blesser 500 autres. Dimanche, nous avons perdu trop de belles et innocentes âmes et plusieurs d'entre elles souffrent toujours. Mais ce soir, nous allons faire savoir à leurs familles que nous les soutenons et que nous les aiderons à passer à travers cette tragique épreuve, a déclaré la chanteuse avant de dédier sa prestation non seulement aux victimes du drame, mais aux premiers répondants, aux docteurs, aux infirmiers et aux nombreux héros qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour aider des inconnus au moment où ils en avaient désespérément besoin. Vingt ans après la sortie de Titanic, l'actrice Kate Winslet retrouvera le réalisateur James Cameron sur le plateau du film Avatar 2. Winslet interprétera le personnage principal, Ronald, dont l'espèce humaine ou Navi n'a pas été précisée. J'ai hâte de la voir donner vie au personnage de Ronald, R-O-N-A-L, a simplement glissé Cameron au sujet du film dont la sortie est attendue le 20 décembre 2020. Rappelons qu'avec Titanic et Avatar, le cinéaste canadien a signé les deux productions hollywoodiennes les plus lucratives de l'histoire au box-office. Le sort de l'ancien théâtre Empress de Notre-Dame-de-Grâce, aussi connu sous le nom de Cinéma V, fait depuis hier matin l'objet d'une bisbille citoyenne, selon un article du collègue Brendan Kelly de Montréal Gazette, ou Montreal Gazette, un groupe de 5 personnes baptisées les Amis de l'Empress presse la mairie d'arrondissement de prendre une décision définitive concernant cet édifice de la rue Sherbrooke-Ouest fermé depuis un incendie survenu en 1992. S'il faut intervenir, c'est maintenant, sinon on devrait démolir pour cause de négligence, soutient Paul Scriver, un porte-parole. Dans l'intervalle, le groupe propose un aménagement de la façade de l'édifice. Un autre groupe, la Fondation du Théâtre Empress, a déploré cette intervention, estimant que tout le monde devrait ramer dans la même direction. Proche de la Fondation, le maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Russell Copman, croit que le projet de revitalisation est bien avancé, mais reconnaît du même souffle que l'état structurel de l'édifice l'inquiète. L'Orchestre symphonique de Québec, OSQ, rendra hommage à la musique de David Bowie et de Prince aujourd'hui et demain, deux icônes de la musique rock et pop décédées à quelques mois d'intervalle en 2016. Accompagné par la formation ontarienne Jeans and Classics, comme lors des concerts hommage aux Beatles et à ABBA présentés en 2016 et 2017, l'ensemble québécois attaquera les Let's Dance, Ashes to Ashes, Space Oddity, 1999, Little Red Corvette et autres pièces de Prince et du Tin White Duck. Ce ne sera pas un concert constitué de ballades, ça va être surtout axé sur les pièces qui sont plus rythmées, a précisé le chef invité David Martin ou David Martin qui dirigera l'OSQ, lors de ses deux soirées présentées au Grand Théâtre de Québec. Le chef montréalais connaît bien Jeans and Classics pour avoir été tromboniste de cet ensemble pendant 10 ans et le premier chef d'orchestre de cette formation spécialisée dans les hommages pop et rock. Il s'appelle David Martin. Les concerts seront constitués de deux parties où des blocs de chansons des deux artistes se succéderont. Des images des musiciens seront filmées et mixées en direct. Maintenant, la tournée des journaux régionaux, le Nouvelliste, Marie-Josée Montminy. Colis suspect à Trois-Rivières, un simple oubli. Le déploiement ayant paralysé le centre-ville de Trois-Rivières mercredi en raison de la présence d'une valise considérée suspecte aura finalement été causé par un simple oubli. Rappelons qu'à l'heure du dîner, la police de Trois-Rivières a reçu un appel pour signaler la présence d'une valise sur le trottoir devant un restaurant de la rue des Forges. Comme la mallette a été considérée comme suspecte, un périmètre de sécurité a été érigé et des évacuations effectuées. Les policiers ont aussi été avertis qu'un sac de sport abandonné se trouvait dans les salles de toilette de la place La Mauricie. Les artificiers de la Sûreté du Québec sont arrivés vers 15 heures pour procéder aux vérifications requises. L'opération s'est conclue peu après 16 heures quand il fut confirmé que les deux colis ne contenaient aucun explosif. Finalement, les enquêteurs ont pu apprendre que la valise appartenait à l'employé d'une compagnie qui effectuait des travaux sur les pompes de bière en fût d'un restaurant. Comme l'explique le sergent Luc Mongrain de la police de Trois-Rivières, l'employé devait retourner à son atelier chercher quelque chose et a laissé sa valise de travail sur le trottoir devant le restaurant. Un popsicle qui dérange à l'UQAC, Stéphane Bégin dans le quotidien. Si l'étudiante au baccalauréat en enseignement des arts Zoé Vincent voulait obtenir de la visibilité pour son œuvre « Envie délectable » jugée osée, elle aura en partie réussi son pari. Depuis quelques jours, le popsicle surdimensionné de l'artiste retient l'attention des étudiants, enseignants et du personnel de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. L'œuvre rectangulaire de couleur rouge sur laquelle coule une matière blanche laisse toute la place à l'imagination d'un public qui n'est pas au courant de la démarche artistique de l'étudiante. Là où le bât blesse, c'est que la sculpture n'a pas été placée au centre social de l'UQAC, comme l'étudiante l'avait demandé. L'œuvre a plutôt été installée au pavillon des arts avec l'approbation du directeur du programme, précise la direction de la maison universitaire. L'étudiante avait demandé à ce que son œuvre soit placée au centre social ou rien du tout. Nous ne pouvions le faire et nous avons convenu avec le directeur du programme de la placer au pavillon des arts, explique Carline Laflamme, responsable des communications à l'UQAC. À la suite de notre décision, nous avons convenu d'en faire un débat public. Nous avons publié l'œuvre sur notre page Facebook et nous demandons aux gens s'ils estiment qu'il s'agit d'une censure. Nous avons nous-mêmes choisi d'en faire un débat, ajoute Madame Laflamme. Il va sans dire que Zoé Vincent ne partage pas l'opinion de la direction de la maison d'enseignement supérieur. « Ma sculpture est un popsicle revel. La saveur est à l'extérieur et la crème à l'intérieur », commence par dire l'artiste. « Sur ce, je ne suis pas d'accord avec la décision. Le monde des arts est souvent difficile à comprendre. Il arrive que ce soit compliqué. Ce que je recherche, c'est que l'art soit accessible et compris par tout le monde », mentionne l'artiste. C'est pour ça que je voulais que la sculpture soit placée au centre social. Pour le moment, l'étudiante au baccalauréat n'a pas l'intention de brasser davantage cette histoire. Mais je ne dis pas que je ne reviendrai pas à la charge auprès de la direction de l'université afin que les dirigeants acceptent de placer mon œuvre au centre social. Mercredi, l'UQAC a placé une photo de la sculpture controversée sur sa page Facebook en demandant aux internautes et à la communauté universitaire de s'exprimer. Ceci étant dit, Zoé Vincent n'en est pas à sa première œuvre contestée. L'an dernier, elle avait produit un cornet de crème glacée à deux boules. L'œuvre était présentée à l'envers et avait suscité une certaine controverse. Dans le droit, Patrick Duquette, sa chronique « La fermeture des bars à 2h du matin dans le secteur Hall a-t-elle encore sa raison d'être? » Il me semble qu'on est loin de la trouble époque de la promenade du portage et des furieuses bagarres entre Ontariens et Québécois. Il serait peut-être temps de revoir cette réglementation d'exception qui date de 1997. Adoptée sous l'impulsion de l'ex-conseiller Claude Bonhomme, elle visait à empêcher la clientèle ontarienne de venir foutre le bordel du côté québécois. Contrairement aux années 1990, il n'y a plus 48 débits de boissons dans le même secteur. Le centre-ville de Hall n'est plus le spot où toute la région d'Ottawa et de Gatineau se tient. Laisse tomber Éric Gaudreau, tenancier depuis 20 ans sur la rue Laval et ancien président de Vision Centre-Ville. Le copropriétaire du Troquet n'est ni le premier ni le dernier tenancier à réclamer un retour à l'ancienne heure de fermeture de 3h, comme c'est la norme ailleurs au Québec. Des commerçants du centre-ville ont fait des démarches en ce sens en 2007 avant de revenir à la charge de manière plus discrète en 2014. Leurs demandes n'ont pas trouvé écho auprès de la classe politique. Jusqu'à maintenant, la ville de Gatineau a refusé d'intercéder en leur faveur auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Et c'est du laxisme politique, laisse tomber Éric Gaudreau. Ça envoie le message qu'on est un secteur dangereux et qu'il y a un problème à régler dans le vieux hall, alors qu'il n'y a plus de problème à régler. L'été dernier, reprend M. Gaudreau, des artistes du Cirque du Soleil venaient prendre un verre chez nous après le spectacle Volta. Il fallait leur dire que le seul petit village d'irréductibles Gaulois qui ferme plus tôt au Québec, c'est ici. Et on devait leur donner des raisons qui datent des années 90 pour se justifier. Depuis quelques années, les tenanciers du secteur Hall doivent faire face à une vive compétition de la part du casino du lac Lémy et des autres débits de boissons qui ouvrent en périphérie, dis-je bien, de Gatineau et à Ottawa. Est-ce que le bobo est vraiment parti? Profitant de la période électorale à Gatineau, M. Gaudreau a eu quelques conversations informelles sur le sujet avec des candidats du centre-ville. Aux yeux de M. Gaudreau, la cause est entendue. On a mis un plaster sur le bobo en 97. Le bobo n'est plus là. La question vaut la peine d'être posée. La menace ontarienne n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que fermer une heure plus tard entraînerait une migration massive d'Ontariens à Gatineau? J'en doute. Quand les commerçants ont avancé l'idée de ramener l'heure de fermeture à 3h du matin en 2007, le maire Marc Bureau et la conseillère Denise Laferrière s'étaient inquiétés avec raison de l'effet que ça aurait sur la criminalité et les efforts pour amener du monde au centre-ville. Avant de rouvrir le débat, le maire Bureau voulait terminer les travaux sur le plan particulier d'urbanisme et obtenir la preuve que la mentalité de la clientèle qui fréquente les bars du centre-ville avait changé. Merci d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service quotidien. Demain, ce sera François Brodeur avec vous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour les paractualités si vous nous écoutez en direct. Merci Mathieu Tessier.